Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit du monde d'où vous nous écoutez, et quel que soit cet endroit, il est sûr qu'en ayant choisi Canal Académie, une radio sur Internet, bien Internet fait partie de vos habitudes, Internet facilite vos recherches, agrémente vos loisirs, et c'est sans doute un outil dont vous ne pourriez plus vous passer. Internet, ce n'est pas tout à fait nouveau, il s'est développé dans le monde entier à partir de 1983, mais vous l'observez, les nouvelles technologies évoluent très vite, aujourd'hui plus vite que jamais, et nous assistons à une effervescence sans précédent. Pour mieux percevoir les enjeux techniques, économiques, mais surtout humains et sociaux de cette formidable évolution, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de Canal Académie l'un des acteurs majeurs de cette évolution et l'un de ses plus fins observateurs, Didier Lombard, président-directeur général du groupe France Télécom Orange, l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Monsieur Lombard, bonjour.
Bonjour madame.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation.
On ne résiste pas aux invitations de Canal Académie.
C'est gentil, soyez le bienvenu en tout cas. Et avec nous dans notre studio, David Juny, que nos auditeurs ne connaissent pas, mais qui est un élément important de Canal Académie puisqu'il en est le directeur technique et qu'il veille à notre diffusion. Bonjour David.
Bonjour.
Didier Lombard, vous êtes un homme surprenant, si vous me permettez de le dire, une sorte de Janus. En matière de télécommunications, vous êtes capable de tourner votre visage vers le passé, car vous avez suivi toutes les évolutions de ces technologies, mais aussi vous le tournez vers l'avenir, bien sûr, et vous avez participé à toutes ces étapes techniques de l'entrée de notre pays, et même on peut dire de notre civilisation dans le monde du numérique, de l'Internet au téléphone mobile, et vous jugez cette évolution technique si importante que vous en avez publié un livre qui s'intitule « Le village numérique mondial, la deuxième vie des réseaux », paru en avril 2008 aux éditions Odile Jacob. Didier Lombard, est-ce que ce livre, c'est simplement parce que, évidemment, ces technologies vous intéressent personnellement, votre formation vous y porte, ou bien est-ce parce que ces technologies posent véritablement pour l'avenir de l'homme ou de la société des questions essentielles ?
Eh bien, en fait, la raison pour laquelle j'ai publié cet ouvrage, c'est parce qu'il y avait énormément de livres sur l'explication du passé et pratiquement pas sur la suite. Bon, certes, il y a certains liens entre le passé et le futur, mais il n'y avait pas beaucoup d'offres sur la suite, première chose. Deuxièmement, les phénomènes qui sont en train de se produire dans le monde des technologies de l'information, qui touchent, on a parlé de téléphonie, on parle d'Internet, on parle de contenu, on parle de publicité en ligne, on parle de la santé traitée sur le net, on parle de tout un tas de choses comme ça, sont en train d'évoluer à très très grande vitesse. On assiste à des grands mouvements sur les rachats d'entreprises. Un tel achète une autre entreprise. Et ça fait toujours des montants très élevés. Et on ne comprend pas toujours pourquoi ça se passe comme ça. En particulier, le grand public ne comprend pas bien. Les journalistes, d'ailleurs, pas vraiment non plus.
Espérons que les économistes, eux, s'y retrouvent.
c'est peut-être pas complètement sûr. Donc, je me suis dit, c'est le moment de publier un référentiel qui va pouvoir être utilisé à la fois pour, évidemment, les personnes de mon entreprise, de ma modeste entreprise, pour comprendre où je les emmène.
Enfin, votre modeste entreprise, tout de même, quelques milliers, combien exactement ?
190 000, c'est ça ?
180 000 personnes et 170 millions de clients. Oui, mais c'est modeste par rapport... Vous prenez le premier opérateur du monde qui est l'opérateur China Mobile, il a 400 millions de clients. Donc, la modestie est toute relative.
Toute relative.
Bon. Et alors, c'était nécessaire d'abord pour donner un point de repère pour les personnes de la maison, donc très important. Et puis, vis-à-vis du monde extérieur, je pense que planter un décor et expliquer ce qui se passe, je crois que c'est un ouvrage qui permet de faciliter la compréhension des phénomènes qui nous entourent. Et comme vous l'avez dit dans votre question, c'est structurant non seulement pour le monde des télécoms, ce qui peut intéresser déjà un certain public, mais je pense que ça va changer nos habitudes de vie. Et donc ça, c'est important au-delà du domaine dont je m'occupe.
Absolument. Dans ce livre, « Le village numérique mondial », vous menez une histoire, effectivement, et une réflexion sur ce développement des réseaux et d'Internet. Et alors, comme vous prévoyez entre autres, parce que vous abordez beaucoup de sujets, mais moi, j'en ai retenu un, comme vous prévoyez que les jeux en ligne vont beaucoup se développer. Je vous propose dans ce studio de Canal Academy de jouer avec moi. J'espère que vous allez pardonner mon audace. Jouons, moi je vous envoie un mot en forme de balle, comme au ping-pong ou comme au tennis. Et puis, si vous voulez bien me renvoyer la balle par une réponse, une balle courte ou une balle longue, comme vous voulez, j'avais envie de jouer à ce jeu de renvoi de balle avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord sur cette idée ?
Oui, on peut jouer. Alors, moi, je suis plutôt tennis, mais...
Vous êtes plutôt tennis, pas moi aussi, d'ailleurs, ça tombe bien.
Vous verrez si les coups sont appuyés ou s'ils sont paraboliques.
Alors, Didier Lombard, si je vous envoie le mot « gratuité » sur Internet, quelle réponse faites-vous ?
Ah, ça, c'est le mirage de l'Internet. En fait, dans ce bas monde, rien n'est gratuit. Et donc, on paye forcément un jour. Pas sous la forme directe, classique, d'un échange commercial comme on a l'habitude de le faire quand on va acheter sa baguette de pain chez le boulanger, mais on paye d'une façon ou d'une autre. Ce qui a donné l'impression de la gratuité, c'est d'abord parce qu'Internet s'est développé sur des réseaux qui existaient, qui étaient quasiment gratuits, donc c'est une industrie coucou. On se met dans le lit des autres. On a vécu dans le lit de la téléphonie. D'ailleurs, on n'aurait pas fait ça. Jamais un réseau mondial comme ça se serait développé parce qu'il n'y avait pas les revenus en face qui permettaient de développer le réseau. Donc ça, premier sujet, la quasi-gratuité du réseau, qui est d'ailleurs une fausse gratuité parce que les réseaux, ils sont pas inertes, il faut les entretenir et ça coûte fort cher. Et deuxièmement, le modèle économique sur lequel la gratuité est basée, c'est basé sur des paiements différés dans d'autres domaines que celui où le consommateur croit être. Exemple, une large partie des revenus vient par de la publicité, voulue ou non voulue par le consommateur, et ça, il n'en prend pas du tout conscience. Il y a des phénomènes d'audience qui permettent de payer des choses. Et alors, ça pose un problème, un simple problème par rapport aux auteurs, en particulier dans le domaine des contenus, à ceux qui fabriquent les biens. Il faut évidemment qu'une partie des revenus retombe dans la poche de ceux qui fabriquent le bien pour que le système économique fonctionne. Si les revenus sont dérivés sur une poche autre, à un moment, la machine s'arrête. Donc voilà. Alors, je ne vais pas continuer sur gratuité comme ça, parce que ça pourrait durer longtemps, mais c'est un des mots-clés de tout ce qui se passe en ce moment.
Si je vous envoie le mot « piratage », on en parle beaucoup en ce moment, c'est un peu à la mode, ce sont les gens qui captent sur Internet. Qu'est-ce que vous avez envie de renvoyer comme réponse ?
C'est un mot qui est dans sa connotation excessive, parce qu'on a l'impression... Le mot pirate, ça renvoie aux bandes dessinées de notre enfance, de gens terribles qui sont en train de faire des choses affreuses. Bon. Alors que le pirate standard, bah, en gros, ce sont nos enfants.
Ou nos parents.
Ou nos parents, oui. Je vois que vous avez bien saisi la réactivité de nos aînés. Donc, ce sont des gens parfaitement respectables. Et ils ont l'impression qu'ils peuvent accéder à tout un tas de contenus. L'habitude de la gratuité les a habitués à accéder à tout un tas de choses, légales ou pas légales. Et en gros, ils ne ressentent pas de sentiment de culpabilité dans le système. Alors d'où la politique qui est menée à l'heure actuelle, qui consiste à dire il faut progressivement changer les habitudes et la sociologie des choses avec deux volets au plan d'action qui a été mis en place par le président de la République. Un premier volet qui est faire en sorte qu'il y ait une offre payante, accessible, claire et intéressante et attractive. Parce que s'il n'y a pas d'offre normale, on a le choix entre rien et rien. Bon. Et puis d'autre part, quelques messages d'avertissement avant une coupure, enfin des choses très progressives, de façon à permettre ce changement d'attitude sans créer des chocs. Et c'est ça le choix qui a été choisi. Ça a déjà marché sur d'autres continents, donc je pense que ça va marcher. Il s'agit en fait de ramener progressivement les revenus dans la poche de ceux qui fabriquent les biens. Et ça renvoie à votre première question.
Absolument, mais on tourne autour toujours de la même chose, parce que si je vous envoyais le mot « contenu », par exemple, pour dire « du contenu » ou « des contenus », pour France Télécom, c'est un sujet intéressant, important.
C'est un sujet tout à fait primordial, parce que le client des réseaux France Télécom a changé de comportement depuis quelques années, 2 ou 3 ans. Je dis, pour frapper l'attention des gens, le consommateur a pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'initialement, on avait l'habitude de distribuer un certain nombre de choses, de services, de contenus, qui étaient préformés, avec un programme linéarisé, etc. Et consommateur s'asseyait dans son fauteuil à 20h et il absorbait le journal télévisé, la publicité, le talk show de 20h30 à je sais pas quelle heure, 22h. Et puis si c'était un couche-tard, il avait encore un film derrière. Bon. Il était passif, il choisissait pas. Et d'ailleurs, c'était un élément essentiel de convivialité parce que ce qu'on me racontait à cette époque-là, c'était que les débats dans les bureaux le lendemain matin étaient basés sur le programme de la télé d'hier. Donc quand j'ai voulu introduire, il y a bien longtemps, de la télévision à la demande, dans les années 80, on m'a rétorqué « tu vas détruire le modèle, c'est pas possible ». Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de conversation possible puisque personne n'aura vu le même contenu.
On voit que ça a changé, en effet.
À cette époque-là, j'avais peut-être tort. Maintenant, je pense que je commence à avoir raison. C'est-à-dire qu'en fait, les gens rentrent à n'importe quelle heure, ils choisissent leur contenu et c'est eux qui ont pris le pouvoir. Et donc, si vous n'avez pas de contenu sur vos réseaux, vous ne vendez pas vos réseaux. Et donc, pour France Télécom, qui a des réseaux à vendre, il faut qu'ils mettent des contenus de qualité sur ces réseaux. Et surtout, ce qui est plus important, avec un mode d'accès complètement flexible. Et c'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire que le consommateur choisit non pas les contenus, mais aussi le mode de consommation. Il choisit l'heure, il choisit le terminal sur lequel il va les recevoir, et il faut qu'il y ait une flexibilité totale. C'est ça qui est nouveau. Alors, 100% des consommateurs ne vont pas se ruer là-dessus demain matin, mais c'est une frange qui va commencer par une petite vingtaine de pourcents, puis progressivement, ça va s'étendre. Et si on regarde actuellement les habitudes des enfants, on s'aperçoit qu'ils ne regardent plus la télé. Alors, il y a des gens qui ont dit « Ah, formidable, la consommation de télévision par les enfants a baissé. » Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. Et la nouvelle plus mitigée, c'est que c'est sur les PC qu'ils regardent les vidéos, et ils en regardent beaucoup plus qu'avant.
Et parfois sans contrôle. Mais donc, c'est un autre problème.
Et donc, ils choisissent.
Ils choisissent. Donc, ils sont dans cette mentalité de, non pas de récepteur, mais d'acteur.
Liberté.
De liberté. Alors, si je vous dis aussi, Didier Lombard, les mots, parce qu'ils vont ensemble, fibre optique.
C'est un des sujets que nous avons en ce moment, qui est très simple. La valeur d'un consommateur, d'un client, qui est en fait un nœud de réseau, comme ça qu'on l'analyse en ce moment, la façon dont ça s'organise, c'est vous êtes un nœud de réseau. Alors, au premier degré, vous êtes un nœud de communication avec vos proches, votre environnement, vos collègues de bureau. Mais en fait, vous êtes un nœud de réseau de tout un tas de réseaux d'informations, y compris des réseaux d'ailleurs auxquels vous ne savez pas vraiment que vous participez. Quand on va vous cibler sur certaines publicités, c'est parce qu'on s'est aperçu que vous faisiez partie des consommateurs de tel ou tel produit. Bon. La valeur du nœud du réseau dépend de la quantité d'informations qui peut lui arriver, donc de la largeur de bande des canaux qu'il desserve. Et qu'est-ce que la fibre ? La fibre, c'est un canal à largeur très très grande, largeur de bande très très grande, qui permet des débits numériques très élevés. Autrement dit, si vous desservez vos consommateurs avec de la fibre, la valeur du nœud de réseau, c'est-à-dire la valeur du consommateur, va augmenter d'une façon très très significative. Donc, dans la phase qui s'ouvre devant nous, cette transition vers des réseaux encore plus riches, qui se fait sur la fibre mais aussi sur le portable, c'est une étape importante pour l'opérateur de télécom qui se place dans le nouveau mode de consommation que je viens de décrire.
Nous sommes avec Didier Lombard, président directeur général de France Télécom Orange. Nous évoquons son livre « Le village numérique mondial », bien qu'on évoque des sujets un petit peu plus larges. On se retrouve dans un court instant en marquant une petite pause.
La figure de Napoléon Bonaparte dans l'œuvre de Sacha Guitry. Jean Tullard, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous donne les codes de représentation de ce personnage historique dans l'œuvre du cinéaste au cours d'une émission Carrefour des Arts. Téléchargez dès maintenant cette émission sur canalacademy.com.
Retour dans notre studio avec Didier Lombard, auteur du livre « Le village numérique mondial » paru aux éditions Odile Jacob. Didier Lombard, on était en train de s'échanger des mots. J'ai encore quelques mots dont j'aimerais bien que vous parliez. Le mot « croissance », au sens où vous pensez-vous que le développement d'Internet va générer une croissance économique et par exemple des emplois ?
Alors, non seulement je le pense, mais ça se mesure, puisque sur les continents qui ont adopté des politiques efficaces pour ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas du continent européen, il y a un demi-point de croissance qui a été mesuré dans les années précédentes qui est lié à la croissance des technologies de l'information. Parce que d'abord, tous ces échanges d'informations finissent par créer des richesses, parce que les consommations qui sont derrière créent du commerce électronique, que ce commerce électronique crée des emplois qui sont, au premier degré, ça a l'air d'être des emplois sophistiqués, de gens, des grands spécialistes de l'électronique, mais derrière, à la fin, ça termine par des emplois de magasiniers, de transporteurs de biens, de fabricants de biens, ça accélère le commerce mondial. Enfin, curieusement, c'est un apport tout à fait important à la croissance des pays qui se sont mis à avoir une politique positive là-dessus.
Donc l'émergence de la fibre va encore augmenter cette croissance.
Ça va augmenter la valeur, bien sûr. C'est bien pour ça que je pousse pour ça. Et c'est extrêmement important parce qu'en fait, quand on regarde nos économies, les secteurs qui peuvent apporter de la croissance, il n'y en a pas beaucoup. On est dans un nouveau monde industriel. On a eu, il y a quelques années en France, je dirais l'ère pompidolienne qui a créé un certain nombre de grands axes industriels qui sont quand même un peu en voie d'essoufflement, même si certains sont encore des fleurons de notre industrie. Bon, il faut recréer une nouvelle gamme d'industries qui permettent de tirer l'économie française. Il y a l'énergie qui est clairement un secteur tout à fait important. Il y a tout ce qui tourne autour de l'environnement et l'écologie. Et puis, il y a tout ce qui est technologie de l'information. Alors, il y a probablement d'autres secteurs. Il y a l'agroalimentaire. Enfin, moi, je ne vais pas faire moi-même le plan ici. Ce n'est pas mon métier. Mais on voit bien qu'il faut refabriquer une matrice et lancer des politiques dans 5-6 secteurs comme ça pour recréer une industrie qui tire l'économie du pays.
J'espère qu'on vous entendra. Encore un mot, ou même deux mots, fracture numérique. Est-ce que ce n'est pas un des grands risques ou un des grands dangers pour la société, justement, actuelle? Même peut-être pas pour la société de l'avenir, mais en tout cas pour aujourd'hui.
C'est un mot qui dramatise un peu la situation. Mais curieusement, on est un des pays où ça s'est pratiquement le mieux passé, puisque depuis 2003, où on a lancé la numérisation de tout le pays, en ce moment, il y a 98% de la population qui est atteignable par de l'Internet à débit relativement élevé.
Mais surtout par l'opérateur historique à l'origine.
Oui, mais vous avez quelque chose contre l'opérateur historique?
Non, justement.
Et vous êtes dans un tout petit pays en Europe. On représente un tout petit pourcentage de l'économie mondiale. Il ne faut pas appliquer à la France des modèles qui sont les modèles des États-continents.
Donc c'est pour ça que ça s'est bien passé.
Absolument. Ensuite, derrière ça, le problème qu'il y a, c'est est-ce que les gens peuvent s'approprier ces nouveaux usages parce qu'ils possèdent des PC ou pas? Alors en ce moment, il y a un gap qui est lié au fait que les gens n'ont pas encore suffisamment de PC, même nos compatriotes qui sont plus très jeunes se sont aussi emparés de l'Internet. Il y a des messageries avec des familles qui fonctionnent très très bien. Mais il n'y a pas assez de PC. Alors, on est en train d'aller vers ça, et le grand opérateur historique, comme vous l'appelez, est en train de mettre sur le marché des terminaux hyper simplifiés qui vont permettre au plus grand nombre de jouer là-dessus. Donc on s'en préoccupe.
Ce n'est pas encore opérationnel pour l'instant.
C'est un scoop alors.
Donc vous nous annoncez de bonnes surprises. Voilà, même les seniors ou même les gens ont un revenu modeste aussi, ne sera pas trop cher.
Ben, il ne faut pas qu'il y ait de fracture à la fois sur le prix, donc on va vers des choses, des terminaux à très bas prix, et il ne faut pas des fractures sur la complexité d'accès. Donc il faut que maintenant sur les terminaux, vous ne vous aperceviez plus que vous êtes sur un PC. Que vous avez un système d'exploitation, que toutes les choses que nous, on a l'habitude de jouer avec parce que c'est nos métiers. Mais madame tout le monde, quand elle veut envoyer un mail à un de ses petits-enfants, elle n'a pas besoin de savoir qu'il y a Microsoft derrière. Donc, il suffit qu'elle clique sur un bouton, elle appuie sur un truc, et puis hop. Mais du moment qu'elle a un doigt et qu'elle peut appuyer sur un écran, ça va marcher.
Formidable. Voilà.
Donc, on n'appellera plus ça un ordinateur? Vous avez déjà trouvé le nom? C'est encore
un
secret?
C'est des secrets, mais... Il faut bien, vous n'avez plus que quelques semaines à attendre.
On va patienter. Et ce sera pareil aussi donc pour les seniors. France Télécom se soucie de leur accès, pas de leur accès à l'Internet, ce n'est pas tout à fait l'expression, mais du fait qu'ils puissent s'en servir, en effet. Apprendre à s'en servir, c'est quand même encore un problème pour quelques-uns.
C'est fait pour que, justement, il n'y ait plus d'apprentissage. C'est-à-dire que chaque fois qu'on me présente quelque chose, je dis toujours que c'est trop compliqué. C'est-à-dire que j'ai une référence... Ma mère a 99 ans, donc quand elle peut s'en servir, c'est bon.
Voilà, on aura découvert la référence.
Elle travaille à Orange Valley, alors.
elle est sans le savoir à des éléments d'Orange Valley.
Voilà, Didier Lombard, votre couleur, on le voit, on le devine, c'est l'orange. Mais est-ce que le groupe France Télécom Orange, et particulièrement la fondation Orange, car il y a une fondation, n'est pas aussi très soucieuse de ce qu'on appelle la responsabilité d'entreprise, de l'impact social de l'entreprise et de ses investissements et du développement durable de ses actions, etc.
Ça, c'est un sujet très important, parce qu'en fait, le métier d'opérateur de télécom n'est pas un métier ordinaire. vous ne pouvez pas être dans un pays, avoir des activités commerciales généralement fructueuses, bon, et puis vous désintéresser de la vie de la population. Parce qu'en fait, vous êtes une partie intime de la vie de la population. Ça se voit très bien dans les pays africains où on arrive, quand on est au Mali et qu'on met du téléphone dans des villages qui n'ont pas de route, qui sont perdus au sud du Sahara, dans des endroits vraiment très lointains. Bon, on apporte le lien avec l'économie générale, on apporte quelque chose que les populations d'ailleurs demandent avec plus d'insistance, beaucoup plus d'insistance que par le passé. C'est une des priorités essentielles. Moyennant quoi, on fait des offres là-dedans qui sont très très peu chères, on se débrouille pour avoir des structures qui sont adaptées à un niveau malheureusement très bas de vie de ces populations-là. Mais dans toutes les géographies du monde, on est un acteur économique et social important. Et donc, chaque fois qu'il se passe quelque chose, il faut qu'on soit présent et qu'on ait un rôle social reconnu. Sinon, vous ne pouvez pas imaginer que vous allez pouvoir vivre longtemps avec des gouvernements qui seront sous pression des populations en disant « Tiens, le riche étranger est en train de tondre nos revenus en nous donnant des télécoms. » Alors nous, on peut dire « Oui, tiens, c'est merveilleux, nous apportons le savoir, mais ça ne tiendra pas longtemps. » Donc, on a créé la Fondation Orange. Mes prédécesseurs ont créé la Fondation Orange qui s'appliquait initialement à la France et maintenant qui est mondiale. Et dans chaque pays, nous faisons des actions qui correspondent à la situation particulière. À Madagascar, on s'occupe des orphelines, des petites filles orphelines. Au Caire, on est avec le SAMU social, on s'occupe... Le Caire est une ville extraordinaire, mais il y a quand même beaucoup de sans-abri dont il faut s'occuper. Donc on s'est mis avec le docteur Emmanueli pour créer un SAMU social au Caire. Bon, c'est très important. En Afrique, on apprend à lire aux jeunes filles pendant l'été. Et il y a des agents de France Télécom qui utilisent leurs vacances d'été pour aller apprendre à lire à des petites filles en Afrique. C'est très important parce que le développement économique dépend des femmes. Et donc on fait ça. Et ainsi de suite. Dans toutes les géographies, on a des actions qui dépendent de la situation particulière de chaque pays. Et ça nous paraît extrêmement important. Alors évidemment, le premier endroit où on fait ça, c'est en France, où on s'occupe de tous les types de handicaps qui sont liés avec l'utilisation d'un téléphone, d'une visio, les déficiences visuelles, les déficiences auditives, évidemment. Bon. Et puis nous sommes là aussi pour favoriser l'art vocal, qui est, c'est la partie artistique de l'activité de la Fondation Orange, qui s'occupe de déployer l'art vocal, la voix étant le plus bel instrument que Dieu nous a donné.
Qu'on se le dise. Didier Lombard, sur la question du plan numérique 2012, c'est-à-dire dans 4 ans, M. Éric Besson, notre secrétaire d'État au numérique, a indiqué en effet que le gouvernement français souhaitait que Internet soit accessible pour tous. France Télécom a-t-il été précurseur dans cette réflexion, je suppose associé aussi à ce plan? Et comment se positionne votre groupe dans ce projet?
On a été évidemment associé avec ça, puisque avant même que le ministère de M. Besson existe, j'avais milité pour qu'on crée une fonction comme ça, puisque je vous ai dit tout à l'heure que un des facteurs de croissance de l'économie de notre pays est probablement les technologies numériques. Donc, normal que le gouvernement s'en occupe. Le grand message qui est derrière le plan, c'est qu'au plus haut niveau, c'est un sujet qui focalise l'attention du gouvernement, du président de la République et du gouvernement par un certain nombre de mesures. Alors, on est présent évidemment sur pas mal de mesures parmi les 154 qui sont citées là. La principale, c'est donner accès à tout le monde, 100% de la population à l'Internet, à travers une offre satellite que nous sommes en train de mettre en place. Donc là, on est à 98%, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Et on sera à 100%, puisque n'importe quel foyer qui demandera l'accès à Internet dans la campagne pourra avoir une offre par satellite, offerte par nous, mais probablement par d'autres également, ce qui leur donnera l'accès à ce bien extraordinaire qu'est l'Internet. Donc on n'a plus de zones blanches pour l'Internet. Peut-être que derrière le Mont Blanc, en se cachant bien derrière une montagne, il restera peut-être quelques-uns
enfin
qui
échapper à Internet.
Pourra peut-être échapper, mais ça m'étonnerait.
Il n'aura pas accès à Internet.
Ça m'étonnerait. Ça, c'est une des mesures essentielles. Puis, et je ne vais pas rentrer dans le détail du plan, parce que 154 mesures, ça nous emmènerait loin. Mais tout ça va dans le même sens, c'est avoir une politique cohérente en matière du numérique.
Dans votre ouvrage « Le village numérique mondial, la deuxième vie des réseaux », je ne vais pas vous faire expliquer cette première vie des réseaux et cette deuxième vie des réseaux, parce que les gens n'ont qu'à lire votre livre, qui est tout à fait intéressant, parce qu'on y apprend beaucoup de choses, surtout quand on n'est pas technicien, donc je le conseille vivement. Mais tout de même, vous avez aussi toute une partie, j'allais dire une troisième partie, sur l'avenir et qui va justement, comment ces technologies vont changer notre avenir. Alors, il y a un mot, justement, qui aussi m'a interpellé. Ce sont les objets communicants. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Ben, il va y avoir une phase ultérieure de l'Internet qui est en préparation, dans laquelle les objets vont être connectés entre eux. Alors comme ça, ça a l'air d'être parfaitement innocent. Alors, je vais prendre un exemple concret
voilà,
pour vous montrer ce que c'est. Eh ben, prenons votre frigidaire. Mm-hmm. Je peux le connecter à Internet. Et donc, votre frigidaire va appeler... Le frigidaire va appeler la grande surface quand votre stock de yaourt sera passé en dessous d'un seuil que vous aurez défini vous-même. Et donc, vous n'aurez plus à vous préoccuper de vos courses hebdomadaires. Systématiquement, il y aura un envoi d'informations sur votre consommation et sur les niveaux de réapprovisionnement qui seront nécessaires. Et ça ferait tout seul.
Mais ça vous dit ça existe, que ce ça sera existe à des... mon choix. C'est-à-dire, c'est moi qui aurais décidé...
Ah, c'est vous qui décidez si vous
que je veux
vous abonnez à ça.
Voilà.
Et puis, c'est vous qui décidez des seuils que vous voulez utiliser. Ce qui est important dans tout ce que le monde néo-kafkaïen que je suis en train de décrire, c'est que nous tenons... J'ai bien senti ça dans votre regard. Nous tenons à ce que la décision soit entre les mains de l'homme. Il ne s'agit pas de laisser la machine prendre le pouvoir.
Oui, parce que quand je me déplace, par exemple, vous pourrez aussi, enfin je dis vous, pas vous, ni le groupe France Télécom, mais on pourra me repérer
on sait déjà
plus qu'aujourd'hui.
Faire ça. Ce sont des informations qui restent complètement au sein de nos ordinateurs, sauf dans certains cas, par exemple, on commercialise en ce moment un bracelet Alzheimer pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie, dont vous savez que de temps en temps, elles oublient,
oui.
Elles s'égarent, et les familles ont beaucoup de mal à les retrouver. Et donc, il y a un bracelet qui dit où elles sont et comment on peut les récupérer facilement. Et ça leur donne de la liberté, curieusement. Donc vous voyez, parce que ça permet effectivement de les laisser se promener, puisque dans 80% des cas, elles sont normales, il n'y a pas de souci. Puis de temps en temps, hop, il y a une phase d'oubli qui passe, et il faut absolument les récupérer dans ces périodes-là. Alors ça, on est en train de lancer ça, avec évidemment la profession médicale, c'est pas nous qui décidons. Hein. Nous, on fait la partie télécom des choses, et la fonction médicale fait la partie médicale. Donc ça, c'est la partie positive
des
choses.
Voilà, une utilisation positive de ce qui pourrait être aussi négatif si c'est mal utilisé, évidemment.
Vous avez aussi sur tous les serveurs qui existent sur les mobiles actuellement des fonctions GPS. Et quand vous cherchez, je ne sais pas, un restaurant dans l'endroit où vous êtes, si vous autorisez la machine à vous identifier, à ce moment-là, elle va vous donner l'adresse du restaurant 3 étoiles le plus proche. Vous choisirez vous-même.
Merci Didier Lombard. En tout cas, je voudrais rappeler que, bien sûr, on ne saurait comparer le groupe France Télécom Orange que vous dirigez et puis Canal Académie, mais en même temps, nous ne sommes pas étrangers l'un à l'autre puisque le groupe Orange diffuse en partie Canal Académie par la live radio Orange et par les téléphones mobiles, peut-être par d'autres projets, sait-on jamais un jour.
Ce qui est absolument fantastique, c'est que quand je suis à l'étranger, à travers un portable, un iPhone, je me mets sur Canal Académie à travers justement la live radio. Donc ça me permet de vous écouter, même quand je suis à l'autre bout de la planète.
Alors vous pourrez vous auto-écouter, alors là, grâce à Canal Académie.
Il faudra que je fasse le choix de m'auto-écouter.
Voilà, c'est encore une des nouveautés.
C'est l'homme qui décide.
Voilà, c'est l'homme qui décide. C'est sur ce mot que nous allons vous quitter, Didier Lombard, en rappelant les références de votre ouvrage, Le village numérique mondial, la deuxième vie des réseaux, paru aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci, David Juny.
Merci à vous.
Et
merci.
Puis, à une autre fois, parce que les technologies évoluent tellement vite, je suis sûre qu'on aura d'autres sujets à aborder bientôt.
C'est pour le prochain ouvrage.
Merci infiniment.